Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 février 2017. John Linden en direct de Washington. Au sommaire ce soir, RDC, volte-face du gouvernement qui va maintenant enquêter sur des crimes présumés au Kassai. Insécurité alimentaire, près de 7 millions de personnes menacées de faim au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. En Afrique du Sud, la justice s'oppose à la décision du gouvernement de se retirer de la CPI. Et puis, vous retrouverez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Morgane Guiriec pour la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Les autorités de Kinshasa ont fait un revirement ce mercredi avec l'annonce d'une enquête suite à la diffusion d'une vidéo mettant en cause des soldats dans un massacre. Éric Manirakiza.
À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo atroce, Kinshasa affirme avoir envoyé une commission conduite par des hauts magistrats militaires. Il doit vérifier ces allégations de violation grave des droits de l'homme dans le village de Mwanza Lomba, au Kasaï oriental. Selon le gouvernement, cette commission d'enquête a déjà procédé à un certain nombre d'interpellations et a lancé un appel à témoins pour recueillir toute information supplémentaire. Samedi, une vidéo montrant des hommes en uniforme et tirés sur des villageois non armés était devenue virale sur le net. Le gouvernement avait qualifié ces images de montage grossier, puis a réitéré lundi son refus catégorique d'ouvrir une enquête. Les États-Unis, la France, les Nations Unies et l'Union européenne exiger que la lumière soit faite sur ces crimes présumés que semble révéler cette vidéo. Situé dans le centre du pays, le Kasaï est le théâtre depuis septembre 2016 d'une rébellion suite à la mort pendant une opération militaire de Kamuina Nsapu, un chef coutumier. Les violences ont fait au moins 200 morts.
La MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, annonce avoir obtenu le départ de la ville de Bambari au centre de Aline Daras, un chef de guerre tenu pour l'un des responsables des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Aline Daras a quitté la ville, mais nous maintenons la pression sur lui, a indiqué Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a été investi à l'aéroport de Mogadiscio sous haute sécurité pour éviter une attaque des Chebabs qui ont menacé de lui mener une guerre sans merci. Nathalie Barche.
Le nouveau président somalien s'est attaché à tempérer les attentes de ses concitoyens, prévenant que sa marge de manœuvre sera limitée face à l'ampleur des défis qui l'attendent, assurant toutefois qu'il ferait de son mieux au plan sécuritaire. J'aimerais régler tous les problèmes lors des 4 prochaines années, mais ça va être difficile car tous ces problèmes ont été créés par 20 années de conflits et de sécheresse, a déclaré Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a aussi invité les militants Chebab à déposer les armes. Si vous refusez de vous rendre, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas tenir devant 12 millions de Somaliens unis. Vous avez tué de nombreux Somaliens innocents et détruit leurs richesses. Vous devez cesser de faire le mal. Je vous demande de venir participer au développement de votre pays, a déclaré M. Abdullahi en présence des présidents djiboutiens Ismaël Omar Guelleh et kényan Uhuru Kenyatta.
Un nouveau chiffre effarant sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine dans le nord-est du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Selon les Nations Unies, c'est le plus grand groupe de personnes affamées dans le monde. Jacques Aristide.
La haute cour de Pretoria, saisie par l'opposition, s'est prononcée. La lettre de retrait de la CPI, envoyée par les autorités sud-africaines en octobre dernier à l'ONU, est inconstitutionnelle et invalide. Pour être légale, cette lettre aurait dû être précédée d'une approbation du Parlement. En conséquence, la Haute Cour a ordonné au gouvernement de révoquer sur le champ cette notice de retrait. En octobre 2016, le ministre sud-africain de la Justice, Mike Masuta, avait accusé la CPI de préférer de toute évidence viser des dirigeants en Afrique. Après une vive polémique déclenchée par le refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, malgré un mandat d'arrêt de la CPI, l'Afrique du Sud a décidé le 21 octobre dernier de se retirer de la Cour pénale internationale. La CPI s'est aussi attirée les foudres de l'Union africaine, qu'il accuse de s'acharner sur les leaders africains.
Vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait bien là de Claire Morin-Gibourg qui parlait donc du tribunal sud-africain qui s'est prononcé aujourd'hui contre la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale au motif que le Parlement n'avait pas été consulté. À présent, maintenant, cet élément du Nigeria, un nouveau chiffre effarant sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine dans le monde, dans le nord-est du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Selon les Nations Unies, c'est le plus grand groupe de personnes affamées dans le monde. Jacques Aristide.
La conférence internationale des donateurs qui doit se tenir ce vendredi à Oslo vise à recueillir quelque 1,5 milliard de dollars pour faire face aux besoins humanitaires de la région cette année. L'insécurité alimentaire demeure le plus gros problème dans cette partie de l'Afrique, précise le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel. Les habitants sont au bord de la famine et ont à peine un repas par jour, ajoute Toby Lanza. Selon les Nations Unies, 10,7 millions de personnes, soit 2 habitants sur 3 de la région, ont besoin d'une aide humanitaire, dont 500 000 d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent des formes les plus graves de malnutrition. La région est en proie depuis 7 ans à une insurrection des islamistes nigérians de Boko Haram qui ont tué dans les 15 000 personnes et provoqué l'exode de plus de 2 millions d'habitants.
L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, Souleymane Baldo, se rendra au Mali du 26 février au 8 mars 2017 afin d'évaluer la situation des droits de l'homme et d'observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans ses rapports antérieurs au Conseil des droits de l'homme. C'est ce que nous apprend un communiqué des Nations Unies. Le nombre de cas de torture enregistrés en Tunisie a nettement baissé depuis 2015, même si les abus persistent notamment dans les prisons et les centres de détention, a indiqué ce mercredi l'Organisation tunisienne contre la torture. L'ONG fait état de 153 cas enregistrés entre janvier et novembre 2016. Dans son rapport publié mercredi, l'Organisation tunisienne contre la torture précise que ces abus varient entre arrestations arbitraires, mauvais traitements, tortures, morts suspectes, menaces de viol ou tentatives de viol. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, salue l'implication de 3 pays voisins de la Libye pour trouver une solution politique à la crise que traverse ce pays depuis 6 ans. S'exprimant devant la presse à Tunis, M. Goebbels s'est félicité de la récente activité diplomatique déployée par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a demandé au gouvernement syrien de stopper les bombardements aériens pendant la durée des pourparlers de Genève. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à la presse l'émissaire spécial de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura. Les délégations des deux camps rivaux sont arrivées à Genève, où doit se tenir une nouvelle série de discussions sous l'égide de l'ONU pour tenter de mettre un terme à 6 années de conflits meurtriers. Le gouvernement en place à Damas sera représenté par l'ambassadeur de Syrie à l'ONU, Bachar al-Jafari. Le président chinois a défendu mercredi l'Union européenne lors de son entretien à Pékin avec le premier ministre français Bernard Cazeneuve, jugeant que la construction européenne restait le sens de l'histoire malgré le Brexit. Pékin, dont l'Union européenne est le premier partenaire commercial devant les États-Unis, veut que le vieux continent reste un pôle de stabilité et s'inquiète du risque de délitement du projet européen face aux poussées nationalistes. 5 députés européens ont indiqué mercredi avoir été interdits d'entrer dans la bande de Gaza par les autorités israéliennes qui imposent depuis 10 ans un sévère blocus sur ces territoires palestiniens. Le refus opposé arbitrairement par les autorités israéliennes au Parlement européen est inacceptable, a réagi l'eurodéputé chypriote Neoklis Silikiostis dans un communiqué. Israël, qui contrôle tous les accès à la bande de Gaza en dehors de la frontière sud du territoire avec l'Égypte, a expliqué que les parlementaires ne faisaient pas partie des personnes autorisées à entrer dans le territoire. Les déclarations controversées de Donald Trump associant immigration et criminalité en Suède ont involontairement ravivé le débat dans le pays scandinave sur les réussites et les échecs de sa politique d'intégration. Deux jours après les propos du président américain samedi en Floride, des émeutes dans un quartier nord de Stockholm, où vit une majorité de personnes issues de l'immigration, ont semblé mettre en pièces l'argumentaire déployé pour lui répondre. Trump avait finalement raison sur la Suède. Des émeutes éclatent dans une banlieue de Stockholm, a assuré la commentatrice républicaine Ann Coulter sur Twitter. La Cour suprême russe a ordonné aujourd'hui la libération d'Ildar Dadin, un opposant condamné en décembre 2015 à 2 ans et demi de prison ferme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et sur voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriac.
Fraude aux cartes Visa prépayées. Edgar Théophile Hanon, le patron de la filiale gabonaise BGFI Bank, a été officiellement suspendu de ses fonctions par le conseil d'administration de la banque. Le groupe financier présent dans 11 pays, de la Côte d'Ivoire à Madagascar, ne précise toutefois pas ce qui lui est reproché. La semaine dernière, une fraude aux cartes Visa prépayées qui a fait perdre à l'établissement plus de 1,5 milliard de francs CFA a été dévoilée. La reprise de la croissance s'accélère au Burkina Faso. L'économie a cru plus fortement que l'attendait le gouvernement l'an dernier. Pour 2017, le ministère de l'économie table sur une prévision encore plus forte, autour de 7,6%, une embellie qui s'explique essentiellement par le rebond de la production agricole et minière. Pour éradiquer la corruption, mieux vaut traquer les tigres que les mouches. C'est en ces termes que s'est exprimée Christine Lagarde dans son analyse de la santé des Afriques. La directrice générale du Fonds monétaire international, qui s'est rendue en Centrafrique, en Ouganda et à Maurice le mois dernier, a également mis l'accent sur la lutte contre les inégalités.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
La Juventus de Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans la course en position de favori ce soir sur la pelouse de Porto. La Juve reste sur 5 titres de champion d'Italie d'affilée et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. Dans l'autre huitième de finale aller ce soir, le FC Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. L'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Première Ligue, 17e à la limite de la zone de la relégation.
Hier soir, match fou à l'Etihad Stadium.
Ah oui, Manchester City qui l'a emporté 5-3 devant Monaco, qui pourra nourrir beaucoup de regrets après avoir mené 2 fois au score. Sterling sonne le début des hostilités à la 26e minute pour les Anglais, mais 4 minutes plus tard, c'est Falcao qui égalise d'une tête plongeante. Mbappé double la mise avant la mi-temps pour les Monégasques qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance, 2-1. En seconde mi-temps, Monaco qui rate un pénalty, c'est le tournant du match. Puis Manchester City parvient à égaliser par Agüero. Puis, sur un coup de génie, Falcao, encore lui, redonne l'avantage 3-2 à Monaco en lobant Caballero. Enfin, sur 2 corners, Manchester City parvient à inscrire 2 buts. Et c'est Sané qui inscrit le 5e but des Citizens. Score final 5-3.
Autre match du soir, l'Atlético très réaliste face à Leverkusen.
L'Atlético Madrid a quasiment assuré sa qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions en s'imposant 4-2 sur la pelouse de Leverkusen sous l'impulsion du redoutable duo français Gamero Griezmann. Les Madrilènes plus précis et plus incisifs ont fait preuve d'une efficacité chirurgicale, mais quand même les Allemands qui sont revenus 2 fois au score pour peut-être préserver un mince espoir pour le match retour.
Le choc en Espagne ce soir, Real Valence.
Oui, le Real Madrid à nouveau au complet se déplace à Valence pour disputer le premier de ses 2 matchs en retard en championnat d'Espagne. Leader avec 52 points, le Real ne compte qu'un point d'avance sur le FC Barcelone, deuxième à 51 points, et 3 points sur le FC Séville, troisième à 49 points. Avant ce match de la 16e journée, il avait été décalé en décembre dernier pour permettre au club merengue de disputer et de remporter le mondial des clubs.
NBA, championnat de basket nord-américain.
La reprise des matchs, c'est jeudi, après le week-end du All-Star Game. Mais, dernier développement, on apprend que la vedette légendaire des Lakers de Los Angeles, Magic Johnson, est le nouveau patron de l'équipe. Il a été nommé hier président des opérations.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. On passe à présent au dossier du jour et on commence par la Guinée où les élèves ont repris les cours aujourd'hui après plus de 2 semaines de grève. Si la réouverture a été effective dans certaines écoles, d'autres ont enregistré très peu d'élèves. Zakaria Camara nous en dit plus à Conakry.
Donc, comme vous le constatez, n'est-ce pas, sur cette loi, sur la coupe, nous avons, n'est-ce pas, l'axe.
Dans cette salle, la majorité des élèves a repris les cours. Des élèves candidats au baccalauréat.
Aujourd'hui, je suis très fière de reprendre les cours, puisque nous avons perdu déjà 2 semaines de congé sans rien faire. Nous savons que nous sommes en retard dans toutes les matières. Donc aujourd'hui, pour la reprise des cours, vraiment nous sommes contentes.
Cet établissement privé est situé dans un quartier qui n'a pas connu des manifestations post-accord. En plus des élèves, les enseignants aussi étaient présents dans les salles.
D'abord que de part et d'autre, les parents avaient peur. Mais certes, ce que nous avons constaté, vraiment, à notre grande surprise, les enfants ont répondu. Et non pas que seulement les enfants, les administrateurs, les enseignants, tout le monde. Nous sommes tous présents et les activités pédagogiques ont repris. Voilà, et surtout par rapport aux classes d'examen, là, nous avons pris des dispositions avec les directeurs de la sorte que le temps perdu soit rattrapé et le plus rapidement que possible.
De l'autre côté de la banlieue, le constat est tout autre. Au collège Saïfoulé Diallo de Bessia, plus de la moitié des élèves étaient absents. Christophe Abba enseigne les cours de physique.
On a programmé 1000 et quelques élèves, mais il n'y a eu que quelques dizaines dans les salles de classe. Nous avons 8 classes de 8e année et il n'y a eu que quelques dizaines. Ils n'ont pas répondu du tout.
Malgré l'accord trouvé, les manifestations se sont poursuivies mercredi dans certains quartiers de la capitale, des endroits où plusieurs écoles sont restées fermées. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Les rebelles du M23 représentent une menace actuelle en République démocratique du Congo, a affirmé l'ONU après des rumeurs de retour dans le Nord Kivu d'ex-combattants de cette rébellion défaite en 2013 par l'armée congolaise. Écoutons Félix Prosper Bassé, porte-parole de la MONUSCO, joint à Kinshasa par Tatiana Mosso.
Nous avons eu des indices probants avec des photos aériennes qui, de manière très globale, nous confirmaient la présence du M23. Évidemment, nous n'entrons pas dans des spéculations pour le moment pour déterminer avec exactitude le volume de force de M23 présent en RDC. Mais nous savons que le M23 est bel et bien en RDC.
Alors justement, quelle est la conséquence de cette nouvelle menace pour la région?
Les conséquences sont multiformes. D'abord, premièrement, vous savez très bien, si vous aviez suivi de 2012 à 2013 tout ce que le M23 en tant que groupe rebelle armé avait eu comme impact sur les populations civiles, ça veut dire un impact tout à fait négatif, particulièrement dans le territoire de Rutshuru où le M23 avait carrément mis en place une administration parallèle avec une police parallèle, un administrateur parallèle, et nous avons tous vu quelles sont les exactions qui ont été commises par les éléments du M23 pendant cette période est bien précise. Alors, bien sûr que c'est une menace pour les populations civiles, bien sûr que c'est une menace pour la stabilité dans cette région, et même, je peux dire que l'impact de cette menace pourrait aussi toucher les autres pays riverains de la République démocratique du Congo. Donc, le M23, revenu en RDC comme mouvement armé, est une menace sérieuse, une menace que nous prenons très au sérieux, en tout cas avec nos partenaires congolais, avec qui nous sommes en contact permanent.
Et justement, quelles sont les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui par l'ONU et ses partenaires?
Pour des raisons de sécurité opérationnelle, on ne peut pas mettre sur la place publique toutes les stratégies, les mécanismes qui ont déjà été mis en place, visités, revisités pour prendre en compte cette menace. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes non seulement déterminés, engagés à remplir notre mandat tel que donné par la résolution 2277 avec nos amis et partenaires congolais, et que tout groupe armé qui présenterait une menace pour la sécurité de ce pays et pour une menace sur les populations devra être traité comme elle. Et je pense que le M23 a encore en mémoire les actions qui ont été prises contre lui, lorsqu'il fallait prendre des décisions et qu'il fallait naturellement le neutraliser, et c'est ce que nous avons fait, grâce à la vaillance des soldats congolais, grâce au soutien de la MONUSCO, mais aussi grâce au soutien des populations locales congolaises.
Félix Prosper Bassé, porte-parole de la MONUSCO, joint à Kinshasa par Tatiana Mosso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, suite de la tournée nationale du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, remportée par l'équipe nationale ce mois-ci à Libreville au Gabon. La caravane est arrivée ce mercredi à Bamenda, berceau de la contestation de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée. Les organisations de défense et des droits humains ont dénoncé de nombreuses arrestations. Timothée Donang-Maï a joint à Bamenda notre confrère Pierrot Anoufak.
Il y avait un mot de grève qui avait été lancé par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui appelaient, n'est-ce pas, la population à boycotter, n'est-ce pas, cette célébration de la Coupe d'Afrique. Avec pour les raisons suivantes, c'est-à-dire Bamenda n'a pas de stade de football, Bamenda n'a pas de route, Bamenda, les élèves ne vont pas à l'école, Bamenda, les enseignants sont arrêtés. Bon, il y a plusieurs problèmes qu'ils ont énumérés. Alors, ce mot de grève a été respecté. Et alors, ce matin, aucun véhicule n'était en circulation, aucun moto-taxi n'était en circulation, les marchés fermés, toutes les boutiques quasiment fermées.
Le trophée est tout de même arrivé à Bamenda. Dans quelles conditions ?
Évidemment, le trophée est bel et bien arrivé à Bamenda et a vraiment fait le tour de la ville. Comme on a l'habitude de le dire, que le football ou encore que le sport est le ciment de l'unité. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que cela a confirmé aux Camerounais que le sport est vraiment le ciment de l'unité. Malgré le mot de grève qui a été lancé par des inconnus, qui a été respecté par la population, le trophée est arrivé à Bamenda et le chairman du Social Democratic Front, le chairman Nijon Fundi du SDF, était bel et bien présent, n'est-ce pas, à la place des fêtes. Son Excellence, le gouverneur à Dublin, l'Afrique, et le trophée a été célébré, n'est-ce pas, par tous ces milliers de personnes qui sont parties des différents quartiers, car la caravane qui transportait ce trophée, n'est-ce pas, excitait des populations à sortir de chez eux et à venir vivre cet événement qui est un événement mémorable.
Alors on sait que Bamenda c'est le berceau de cette contestation des anglophones qui se disent marginalisés. Quelle est la situation de ce point de vue ?
De ce côté, il faut dire qu'actuellement les Bamenda ou encore les Bamendaens maintiennent toujours, n'est-ce pas, leur position sur le fait. Et là d'où je vous parle là, les parents sont déjà presque fatigués parce qu'ils sont fatigués du fait que le gouvernement n'arrive pas à trouver un consensus avec les enseignants anglophones, malgré le fait que le mot de grève avait été levé. Ça fait 3 mois aujourd'hui, aucun élève ne va à l'école.
Notre confrère Pierrot Anoufak, joint à Bamenda au Cameroun.
Dans Washington Forum cette semaine, Donald Trump déclare la guerre à l'immigration clandestine. Sur plus de 11 millions de clandestins présents aux États-Unis, tous sont potentiellement expulsables. Quid de ces sans-papiers arrivés enfants sur le territoire ? Cette procédure d'expulsion accélérée, sans passer par la case justice, crée un climat de peur. Qui est concerné exactement ? La justice américaine peut-elle une nouvelle fois contrecarrer les plans de l'administration Trump ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Nous restons aux États-Unis où l'administration Trump a adopté de nouvelles mesures sur l'immigration clandestine. Dans 2 directives, le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tout son papier qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une note qui inquiète dans les milieux d'immigrés africains. Chérubin Dorcy l'a joint à New York, Bakary Tandja, militant pour les droits des immigrants.
C'est un problème très très sérieux et d'ailleurs depuis 9h jusqu'à 11h du matin, j'étais à une réunion qui a regroupé les leaders de toutes les organisations qui luttent pour les droits des immigrants. Congresswoman Nina Vasquez, qui est très très active dans ce domaine, avait participé également à la réunion pour évaluer la situation et essayer de voir quelles sont les stratégies à adopter à court terme et long terme.
Donald Trump a promis de reformuler son décret sur l'immigration. En attendant, l'administration a adopté de nouvelles mesures pour appliquer des lois déjà existantes et c'est la panique parmi les immigrés.
Le mémo qui vient de tomber a aggravé la panique qui existait déjà au sein de la communauté. Et donc la panique est grandissante. Les mesures qui viennent d'être adoptées, bon, pratiquement rend tous ceux qui sont dans la situation d'illégalité vulnérables. Et d'ailleurs, c'est tout le monde qui est affecté.
Et qu'en est-il de ceux dont le cas est en train d'être traité déjà par les services de l'immigration? Des gens qui sont en situation irrégulière, mais qui ont fait une demande, par exemple, et n'ont pas encore eu de réponse?
Bon, même au niveau de l'administration elle-même, ils ne sont pas consistants dans leurs décisions. Donc, ils sont en train de tâter la réponse par rapport aux mesures qu'ils sont en train de prendre. Donc, ce qui fait que même au cours de la réunion que nous avons eue aujourd'hui, c'était pas du tout facile de déterminer exactement ce qui va se passer. Ce que nous pouvons dire, la situation est réellement sérieuse et que nous sommes en train de travailler pour développer, en tout cas, des stratégies.
Comment la communauté peut-elle faire face à cette situation?
La première des choses, c'est d'éduquer les membres de notre communauté par rapport à leurs droits, même en tant que illégal, en tant que personne humaine vivant sur le territoire américain, les personnes jouissent d'un certain nombre de droits qu'il peut faire valoir. Également, là où s'adresser en cas de besoin pour demander de l'assistance. Ça, c'est très, très important. Et l'autre stratégie, c'est de s'organiser. Comme vous l'avez constaté, il y a une mobilisation au niveau national. Bon, ça également, nous avons besoin de continuer à nous organiser et à revendiquer nos droits.
Bakary Tandja, militant pour les droits des immigrants.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Merci à Georges Léonard Sagnou pour ce petit détour musical au Ghana avec Dasebré. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Mise en onde par Georges Léonard Sagnou, Nashwan Kale était à la console, présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Just one, who's somebody who needs a bit of this, I mean, copies of mommy. She